Bonjour et bienvenue dans l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. Le festival à Flamme, les rencontres internationales de cinéma, a commencé le 24 mars dernier et se tient jusque dimanche prochain, le 3 avril, à Marseille. Pour découvrir la programmation de cette 9e édition, rendez-vous sur leur site aflamme.fr. Dans le cadre de leur cycle patrimoine Solidarité transnationale, l'Algérie et la Palestine, mecque et symbole des révolutionnaires, nous sommes allés enregistrer le dialogue qui s'est tenu dimanche dernier au Polygone étoilé. Dialogue modéré par Hugo Darroman, chercheur spécialiste des transferts culturels France-Palestine dans le cinéma révolutionnaire palestinien, avec la cinéaste libanaise Monica Maurer et l'historien du cinéma Olivier Adouchi.
Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. Malheureusement, Monica Maurer a attrapé le Covid et donc elle ne peut pas être avec nous physiquement, mais elle est là avec nous sur le grand écran du coup. Cette séance est la première séance qu'on va consacrer au cinéma de patrimoine, arabe et non arabe, mais en tout cas militant pour une cause internationale, transnationale, avec des soutiens à la militance algérienne et palestinienne, plus particulièrement cette année. On ouvre un cycle de projections qui sera consacré aujourd'hui principalement à René Vautier et à Monica Maurer, mais qui se poursuivra la semaine prochaine avec des films de Cécile de Cugis, de Marc Ferraud, et avec un cycle consacré aux pionnières du cinéma documentaire arabe avec Atiga Talabnoudi, Nabih Haloutfi, Sophie Felchou et Asya Djebar. Voilà, donc entre ici et le Vidéodrome mardi et samedi prochain. Et comme ce sont des films qui méritent et qui ont besoin aussi d'accompagnement et de remise en contexte historique, on a avec nous aujourd'hui Olivier Adouchi, historien du cinéma, spécialiste du cinéma de l'Afrique continentale, et Monica Maurer qui sera là pour parler de son expérience et de son expérience au Liban du coup à la fin des années 70 pour la défense de la cause palestinienne. Dans une discussion modérée par Hugo Darroman, doctorant à l'IREMAM, et c'est ça ?
Oui.
doctorant à l'IREMAM sur les cinémas de solidarité, avec une spécialisation sur la question des Français partis en Palestine, mais qui connaît très bien Monica Maurer et qui a gentiment accepté de modérer cette discussion. Donc je ne parle pas plus longtemps, je les laisse prendre place et je vous remercie à tous. Normalement, tout devrait bien se passer d'un point de vue technique, donc voilà, merci beaucoup.
D'accord. Merci. Et bonjour Monica, je suis très content d'avoir l'occasion de discuter avec toi aujourd'hui. Peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et commencer par... Pardon, tu nous entends ? Alors.
Tu nous entends Monica ?
Est-ce que tu nous entends ?
Le son est très 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 bas.
Je rapproche alors, peut-être que ça ira
mieux. Ah oui, ça serait mieux.
D'accord. Alors peut-être qu'on peut commencer par revenir un peu sur ton parcours, Monica, pour situer d'où vient l'engagement d'un cinéaste solidaire qui va voyager et prendre la caméra pour filmer des luttes qui sont ailleurs. Donc tu as fait des études en Allemagne, tu avais déjà eu un parcours militant.
Pardon, c'est deux micros en même temps.
Alors, d'accord. Tu avais déjà eu un parcours militant qui t'avait amené à t'intéresser à la question algérienne. Tes premières expériences militantes sont liées à la question algérienne. Et tes premiers films indépendants sont des films qui t'ont amené alors... Il y en a eu un premier au Chili, où tu es allé en 72. Pour faire un film qui est sur la lutte menée pour imposer le socialisme au Chili, donc sous Salvador Allende, et un autre film sur la lutte des ouvriers de l'usine de montres LIP. Alors, moi, une première question que je voulais te poser, c'était d'abord sur ces premiers engagements dans les luttes des pays étrangers, et sur les premiers engagements, surtout, sur les luttes des pays qu'on appelait des pays du tiers-monde. On reviendra peut-être un peu sur cette expression plus tard. Donc des pays comme l'Algérie et le Chili. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à t'engager sur ces luttes-là particulièrement Et ce qui t'a poussé à prendre la caméra pour aller les filmer et témoigner de ces luttes. Est-ce que tu nous entends, Monica?
Maintenant, je t'entends.
Ah
oui, plus, avant, un tout petit peu, maintenant, pratiquement rien.
D'accord. Et maintenant?
Maintenant, c'est mieux.
D'accord, bon, je vais faire attention. Alors,
les questions, Mathilde m'a dit qu'il y a la fille de René Vautier, c'est vrai?
Non, finalement, elle,
non, elle n'a pas pu venir, finalement.
Ah bon.
Dommage.
Donc, c'est dommage, oui.
Donc ma première question, c'était sur tes engagements.
Ça a été un grand cadeau, parce qu'il était vraiment un ami du cœur et du... très, très proche pour une phase.
Ouais, c'est dommage. On aura Olivier pour parler du travail de René Vautier. Alors, du coup,
et en effet, le titre « Palestine en flammes » est un hommage à René qui a fait « Algérie en flammes ».
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur Monica, sur tes premières années de militantisme, sur la question algérienne, la question chilienne? Ma question, c'était quelle place avaient ces luttes pour ce qu'on appelait le tiers-monde dans ton travail, et pourquoi est-ce que tu étais parti spécifiquement pour filmer ces luttes? Quelle place ça avait dans ton univers militant?
Bah vraiment, c'est parti mi-années 50, quand il y avait quand Henri Alec avait fait le livre « La question sur la torture en Algérie », et ce livre ce bouquin a été mis en dehors loi en France. Alors moi, j'étais en contact avec beaucoup des émigrés, mais aussi des exilés, et il y en avait plein des Espagnols alors, bien sûr, portugais, mais aussi algériens, et on a décidé de faire une action propagandistique à l'université durant un rencontre du ministère étranger français et celui-là allemand. C'était le début de la soi-disant néo-alliance franco-allemande. Donc on a cyclostylé le bouquin pour le distribuer, et après 5 minutes, tout de suite, il y a la police et les CRS, c'est comme les... celui-là qui sont militarisés dans les en France, comment ça s'appelle? C'est une police particulière qui nous a matraqués et puis portés au centre de la police. Et c'était la première fois que j'étais très très jeune, où j'étais arrêtée, mais je ne voulais pas dire qui je suis. Et durant la nuit, il y avait j'avais une
bosse.
J'étais blessée à la tête et ça coulait beaucoup de sang. Et donc à la fin, ils m'ont porté à un hôpital pour fermer le sang. Et j'ai toujours une petite blessure là en arrière, mais une cicatrice. Mais là, c'était bien évident. c'est entré dans la tête, une fois pour toutes, que dans les luttes de libération, ou pour la liberté, ou pour l'autodétermination, ou contre le colonialisme, l'impérialisme, c'est pas possible d'être neutre. On peut pas, qu'il faut choisir son côté. Et il faut que la neutralité, comme, enfin, il y a Tutu qui dit cette très belle phrase d'Esmond Tutu, non, que dans les luttes de libération, la neutralité, c'est comme être à côté du colonisateur. Donc, ça, c'était le début. Et donc, là, bien sûr, j'ai suivi encore avec plus verve la lutte de libération nationale du peuple algérien. Et puis, après que j'avais fini l'école, le lycée, j'ai étudié sciences des communications, sociologie, et aussi il y avait un embryo d'une école de cinéma pour les troisième programme, enfin les programmes d'éducation de la télé. Et là, j'ai travaillé pendant quelques années dans des archives pour faire des vieux films qui en recyclaient pas, enfin remonter et faire des nouveaux films, quelque chose le réuse, l'usage du matériel d'archives, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. J'ai eu, on m'a offert de faire un tutor aux États-Unis pour un prof qui allait à MIT, c'est c'était une université très cotée dans ces temps-là, il y avait Chomsky là. Et comme vous savez que le 68 étudiants aux États-Unis, ça a commencé en 64 déjà, dans le cadre de l'opposition contre la guerre en Vietnam. Alors j'ai accepté ça, mais avant, j'avais des difficultés d'avoir le visa. À la fin, j'y suis réussi, mais j'ai eu des ennuis au début liés à l'université. Puis je suis retourné à New York et j'ai travaillé pour une maison d'éditrice comme quelque chose. Grove Press, c'était comme un peu Albin Michel, alors, ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu dans la télé la grande manifestation de Selma, qu'on a matraqué les Noirs qui voulaient se enregistrer pour le vote, c'était juste après avoir passé la Voting Rights Bill, enfin de mettre en place le droit de vote des Afro-Américains. Je suis parti avec un bus aller à Selma et j'ai vu ça, enfin de en direct. Et puis j'ai fait un voyage dans le sud des États-Unis pour un fois connaître le projet des Freedom Schools. Ça veut dire des écoles où on faisait des cours anti-racistes, anti-impérialistes, et après que je suis rentré en Allemagne, je pouvais, c'était désormais le 72, on m'a offert de travailler de temps en temps pour la radio aussi, de faire un reportage sur le UNCTAD, c'est United Nations Trade and Development Conference, qui était la première fois en Amérique latine, au Chili, et donc comme c'était le Chili du Salvador Allende, j'ai pris cette occasion pour y aller. Et je suis, après la conférence, je suis resté pour faire un petit film dans les banlieues de Santiago, enfin, ça ce qu'ils étaient l'équivalent des favelas, où le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, avait mis en place un projet de créer infrastructures, soit un centre pour la santé, que des écoles, que des centres du quartier où les gens se puissent réunir et aussi informer. L'école, par exemple, c'était des vieux wagons de train où ils ont fait des classes, chaque wagon une classe, et puis ils ont mis en place aussi un centre de santé. Où, en outre, il y avait tous les fronts des travailleurs, des agriculteurs, des femmes. Et donc, c'est un focus sur ça, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, aussi en regard à la Palestine, c'était l'infrastructure sociale, médicale, politique, éducatif et qui rend service au peuple. Enfin, d'utiliser les artistes aussi, enfin, en ce cas particulièrement les cinéastes, investent leurs énergies pour faire un parcours de construction d'infrastructures qui restent sur place et qui fait la différence dans la vie quotidienne du peuple. Enfin, et de là, maintenant je ne peux pas faire toutes les stations du parcours parce que c'est très long sinon. Mais pour arriver à la Palestine, je dois dire que mon contact politique avec les Palestiniens est beaucoup avant le travail cinématographique. Parce que j'avais dit avant que j'ai travaillé sous les immigrés, enfin sur la... C'est ce qu'en allemand on appelait les Gastarbeiter, ça veut dire les ouvriers hôtes, ce qui est complètement... absurde, parce que c'était tout le contraire d'être, c'était une exploitation extra et pas, enfin tous les travaux les plus durs, les plus nocifs, toxiques et plus précaires étaient réservés aux immigrés. Enfin, c'est là. Dans ce sens-là, il n'y a rien qui a changé, peut-être. C'est toujours comme ça. Mais dans la communauté des immigrés à Munich, où je vivais alors, les, les plus organisés, c'était les ouvriers palestiniens. Peu en nombre, mais très organisés, parce qu'ils avaient l'union le General Union of Palestinian Workers, l'Union générale des ouvriers palestiniens, qui était très très bien organisée. Et donc, à travers eux, j'avais vécu aussi la guerre du 67, où c'est finalement très évident de l'expansionnisme des sionistes, enfin de Israël. Et donc, durant la guerre du 67, il y avait une hystérie, enfin un peu comme maintenant pour l'Ukraine, hein, des gens qui disaient je vais combattre avec Israël contre les Arabes. Alors vivant ça, pas dans la les lunettes de ça ce qui était la soi-disant information ou désinformation officielle, mais à travers les racontes, les contes des ouvriers palestiniens qui... donc j'ai vu ça dans une optique complètement divers et pas d'une lutte anticoloniale et impérialiste. Et donc, c'est là où j'ai commencé de suivre, pas seulement dans un sens général, mais concrètement, avec des projets concrets aussi, la situation en Palestine. Et de là que j'ai commencé de faire de retourner faire des films, parce que j'avais arrêté pour un moment parce que je pensais que c'est pas tellement pratique, enfin que je peux pas laisser tellement de enfin assez sur le plafond qui reste.
Et justement j'avais des questions
Tu dis quelque chose ?
Oui, justement.
Dis-moi.
Je voulais poser une question à Olivier, mais qui va...
Si tu veux la laisser terminer, comme tu veux.
Comment ? Bah, c'est une question qui va vous concerner tous les deux. C'est sur le fait de faire des films, des films militants dans un contexte qui n'est pas forcément favorable. Alors pour René Vautier, on présente souvent Afrique 50 comme un film, comme le premier film anticolonialiste français. Ma question pour Olivier, c'était qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes de production, de réalisation, de distribution, de faire un film anticolonialiste dans un pays colonial, parce que la réalité française dans les années 50, c'est qu'on est encore dans un empire colonial. Et l'autre part de cette question, c'était sur le contexte dans lequel toi, tu as fait des films, Monica, qui est un contexte très différent, parce qu'on est après mai 68, la décolonisation a bien avancé, mais en même temps, on est en pleine guerre froide, et tu fais des films qui s'adressent plus ou moins au bloc de l'Ouest, sur un sujet, les Palestiniens, qui n'est pas forcément accueilli favorablement, d'autant que tu défends le point de vue des Palestiniens. Est-ce que tu penses que parler des Palestiniens dans ce type de contexte politique, c'est quelque chose qui a soulevé beaucoup de contraintes? Enfin voilà. Donc peut-être qu'Olivier peut...
Alors, si je comprends bien, la première question, c'est... tu me la rappelles?
La première question, c'était pour Olivier, c'était sur le fait de faire un film anticolonial dans un contexte colonialiste. Ouais. Et peut-être qu'Olivier peut nous répondre.
Comme tu... Alors, oui,
je... Bah, écoute, Alors, oui, le contexte colonial, enfin, si tu parles d'une situation complexive plus grande, mais là, les films sur la Palestine, c'était un moment que moi, personnellement, je pense que c'était un moment très, très positif, très constructif, et un moment où il y avait un projet collectif d'une société palestinienne meilleure et d'une vision d'un futur qui de autodétermination et de organisation d'une infrastructure d'un futur État palestinien, parce que c'est ça ce qui était dans les années 70 avant en Jordanie et puis en Liban, et c'est justement ça ce qui m'a intéressé. Enfin, quand je suis allé la première fois à Beyrouth, c'était dans un contexte de solidarité médicale avec le Croissant-Rouge palestinien, parce que juste après la guerre civile, Tel Azhar et les destructions et les massacres qu'il y avait, il y avait une grande exigence de solidarité concrète. Alors, là, c'était... Quand j'ai vu, puis sur le terrain, la infrastructure très, très, très sophistiquée que l'OLP avait mise en place, enfin, pas seulement dans le secteur de la santé, enfin qu'il y avait une 80 cliniques et hôpitaux et cliniques dans tous les camps réfugiés, avec une santé publique, ce qui est un moment très important dans un pays comme le Liban où la santé, il n'existait pas de santé publique. Donc beaucoup des patients dans les hôpitaux et cliniques et centres médicaux de la Croix-Rouge palestinienne, ce qui était l'équivalent du ministère de la Santé, étaient des pauvres Libanais ou des travailleurs syriens ou kurdes, enfin, de autres nationalités qui avaient besoin des soins, et que l'unique accès à la possibilité d'être soigné, c'était la Croix-Rouge palestinienne. C'est surtout la population pauvre chiite du sud du Liban était très souvent, enfin, soignés dans les hôpitaux durant les bombardements israéliens qui étaient pratiquement continus, et c'était un des facteurs d'une forte unité aussi des Libanais avec les Palestiniens, quelque chose qui aujourd'hui est nié absolument, parce que ça semble... Aujourd'hui, au Liban, ça semble, si tu parles avec les gens, il semble que la raison de tous les malheurs de Liban, c'était les Palestiniens. Enfin, c'est complètement faux. Dans ces moments-là, c'était en effet pas seulement un input important politique, sur le plan d'organisation, de participation, enfin, de qu'une société meilleure, ça s'est construit en collectif et ça s'est construit avec un projet et la mobilisation des forces et des énergies du peuple. Et c'était ça aussi qui a fait beaucoup peur, pas seulement aux Israéliens qui ont tenté beaucoup de fois, jusqu'à la fin, dans la guerre en 82, ils ont réussi à détruire tout ça, ce que l'OLP avait construit comme infrastructure, et effacer la présence organisée palestinienne au Liban, mais aussi au régime arabe, qui, bien sûr, ne voyait pas du tout avec bon œil une population organisée avec une haute conscience de scolarisation, mais aussi de organisation politique et une conscience politique critique pour un change social, pour la justice sociale. Enfin, c'était des moments qui bien sûr, à tous ces régimes, soit dictature militaire, soit monarchie, ne plaisaient pas du tout. Alors, dans un cas, il y avait alors encore l'appui de la Ligue arabe et donc les pays arabes appuyaient aussi économiquement l'OLP, mais quand même, dès que cette infrastructure était détruite, aussi l'appui concret à l'OLP et tous les organismes de masse de l'OLP, que c'était les organismes, pas seulement les femmes, les travailleurs, les muhandistin, donc les ingénieurs, les agriculteurs, mais aussi les unions des travailleurs et enfin tous les composants de la société civile qui ensemble formaient aussi le parlement, enfin le conseil, le Majlis-el Watani, le parlement palestinien. Donc c'est ce que je voulais dire, et voyant cette infrastructure très, très sophistiquée et très, très progressive, qui était modèle dans le monde arabe alors, sur beaucoup de niveaux, soit comme l'éducation de santé ou sociale dans les camps, soit par exemple l'initiative de combattre l'analphabétisme, les campagnes d'alphabétisme. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit?
Merci Monica. On va parler du cinéma aussi. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Olivier pour aussi répondre à la question et nous parler du cinéma de René Vautier et du contexte aussi où René Vautier a travaillé, puis réagir aussi à ton témoignage.
Merci, c'est toujours bon d'avoir un témoignage d'une personne qui est actrice de quelque chose et qui nous fait part de son expérience, en fait, c'est toujours très intéressant. Donc pour répondre à ta question, je reviens à ta question, donc c'est une autre séquence historique qui démarre effectivement un petit peu avant, mais c'est des questions importantes auxquelles on ne pense pas tout le temps, parce que maintenant c'est plus facile d'avoir accès aux moyens de faire du film. On peut faire du film avec un téléphone, un petit magnéto, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque coloniale, donc pour le cas algérien, donc sur l'arrière-plan de René Vautier, on est dans un autre contexte. On est dans un contexte où très peu de cinéastes, en fait, peuvent tourner librement. Par exemple, en ancienne Afrique de l'Ouest, on le verra avec Afrique 50 tout à l'heure dans le film, c'est qu'il y a une loi qui interdit de filmer sans en référer aux autorités coloniales. Donc c'est un système, pas de contraintes, c'est de censure absolue, évidemment, où on ne peut pas le passer. Il y a aussi, en France continentale, il y a aussi un système de contrôle, parce qu'il faut un visa d'exploitation, un visa de censure, pour passer les films en salle. Sinon c'est illégal, la boîte de production peut être attaquée, et ce genre de choses. Donc c'est un contexte qui est extrêmement répressif, où en fait, pour le cas de l'Algérie, il y a un seul cinéaste, par exemple, algérien, enfin avant qu'il y ait l'indépendance, qui s'appelle Tahar Hanache, qui commence à l'époque, en contexte colonial, à faire des films muets. Hein, au début, il est acteur, il va être producteur, et il va faire des petits courts-métrages, donc comme je dis, avec les ambiguïtés de l'époque. Et en 1952, il fait un film qui s'appelle « Les plongeurs du désert », que beaucoup de personnes, enfin quelques historiens considèrent comme le premier film vraiment avant même l'indépendance, qui anticipe d'une certaine manière l'indépendance algérienne. C'est un petit court-métrage qui est fait avec une équipe algérienne, une production, c'est lui-même qui le produit, et il sera interdit par le gouverneur d'Alger, en fait. C'est un film qui a été un peu oublié ensuite. Et après, il y a la séquence donc, de la guerre d'indépendance, avec, comme j'expliquais, c'est très important de le rappeler tout le temps, c'est que la colonisation, très volontairement, il n'y a pas eu d'éducation massive, comme on le sait, on connaît les aspects positifs, on sait très bien que l'éducation, ça a été complètement déficient, c'était une minorité, et le cinéma, eh ben, c'est le révélateur empire, où il y avait, en fait, Tahar Hanache, qui, lui, n'est pas passé par une école. Années 50, il y a Ali Djenaoui, en fait, qui était un étudiant de l'IDEC. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici dans la salle, Nabil, qui a fait une recherche, qui a mis sur le site Archives numériques du cinéma algérien son mémoire. Et malheureusement, au moment où il est rentré en Algérie pour rejoindre le FLN, suite à une opération de manipulation qu'on a appelée la Bleuite, il a été exécuté dans un maquis. En fait, l'armée française a fait passer le message en faisant croire que c'était un agent double, ce qui était faux. Et donc, malheureusement, lors d'une purge, il a été tué. Il y a d'autres cinéastes algériens, donc... on connaît Ahmed Rajdi, il y a aussi Lakhdar Hamina, il y a aussi un autre qui s'appelle Ali Yahya Abdenour, c'est son cousin, Ali Yahya Mohand, qui a fait un film qui s'appelle Die Frage, la question, à Berlin-Est en 1961, où il y a Henri Alec qui apparaît, c'est un petit court-métrage qui dénonce la torture dans le contexte de la bataille d'Alger, et il y a aussi quelques cinéastes français. À l'époque, c'est assez rare, la nouvelle vague et les mouvements... contemporains qui mettent un nouveau souffle dans le cinéma français sont assez peu présents. Donc c'est des figures comme René Vautier, lui vient de la militance, de la résistance, il est vraiment issu de cet imaginaire-là, donc les maquis, les idées aussi de groupes comme ça, clandestins, de guérilla, c'est des choses qui lui parlent tout de suite quand il vient en Algérie. Et il fait un film qui s'appelle L'Algérie en flammes en 1957-58, à l'époque où on peut encore aller de la Tunisie à la frontière jusqu'à la zone des Aurès, la zone en fait, de l'Est algérien. Et il y a d'autres cinéastes, il y a aussi Pierre Clément, donc lui c'est un opérateur, et qui a tourné trois films, un qui s'appelle « Réfugiés algériens en Tunisie », parce qu'à l'époque on disait « il n'y a pas de guerre », et lui va montrer, il va dire ben, « il y a des réfugiés », il montre qu'il y a des villages entiers qu'ils sont évacués, donc il y a un afflux massif de population. Et il y a Cécile de Cugis aussi qui fait un film en 57 qui va être montré mardi au Vidéodrome et qui s'appelle « Réfugiés algériens en Tunisie », qui a voulu en fait montrer le vrai visage en fait de la guerre, de ce qui voulait être ce qui passait par la censure. En France à cette époque, évidemment, c'est des images que les autorités ne veulent surtout pas montrer. Ensuite, il y a Sakiet Sidi Youssef qu'on a appelé un peu le Guernica algérien, qui est une ville tunisienne frontalière qui a été bombardée par l'armée française, donc il va documenter Pierre Clément en 58. Quelques mois après, il va avec un maquis de la LN et il se fait intercepter avec sa caméra et au moment où il tournait. Et il y a ensuite un groupe qui s'appelle, qui vont former le groupe du cinéma parallèle, et c'est Yann Lemasson et Olga Polyakov. Ils vont faire un film qui s'appelle « J'ai 8 ans ». Et ils vont créer, parce qu'en fait, en France, on ne peut pas montrer les films de René Vautier, on ne peut pas montrer les films de Pierre Clément, Cécile de Cugis. Ils vont créer, ils vont même écrire un petit manifeste qui s'appelle Manifeste du cinéma parallèle. Alors on l'a souvent dit qu'on parle des cinétractes, ce genre de choses en mai 68. Quelque part, c'est l'ébauche un peu de ces genres de cinéma. On va retrouver ça après, tu as dû le voir dans tes recherches sur la question palestinienne. C'est-à-dire que le cinéma, comment dire, la télévision, à l'époque c'est le RTF, donc c'est vraiment la chaîne unique, c'est ultra contrôlé, on ne peut pas bouger. Donc il faut vraiment, ils ont eu cette idée de créer un cinéma parallèle. C'est un cinéma comme un cinéma clandestin, un cinéma avec des projections semi-clandestines, des projections militantes. Ici à Marseille, il y avait une personne qui avait fait ça sur l'Indochine, qui est Paul Carpita, hein, qui avait voulu dénoncer la guerre d'Indochine, qui avait montré la nuit des dockers. Donc voilà, et René Vautier, donc, c'est une figure qui va être importante, qui va travailler aussi avec, avec le FLN, parce qu'en fait, très vite, les batailles, on le voit dans tous les conflits, c'est une bataille d'image. La notion d'image est très importante. Et en fait, l'aspect international est très important, c'est pour, et on va le voir avec la Palestine, avec d'autres luttes, c'est pour isoler en fait l'adversaire, la puissance coloniale, et ben il faut utiliser le monde comme une plateforme. C'est-à-dire on va montrer des films à l'ONU, on va utiliser d'autres plateformes pour créer un courant de solidarité et qui est très très important en fait. Parce qu'après mai, ça permet de faire une grosse pression internationale et donc l'image, elle est très très importante. Et René Vautier donc, participe de ce courant-là avec des films comme L'Algérie en flammes, qui va être montré tout à l'heure. Et en fait, même des gens me disent des fois, j'ai jamais vu ce film-là. Bah si, dès qu'on voit un film, un documentaire de Stora, de Raphaël Branche, la plupart des images qu'on voit, des images de Maquis et de Lutz, ce sont des images de Vautier qui ont été tournées par lui. Et il y a aussi, donc je disais, Chanderly. Jamel Chanderly, c'est une figure importante, qui est un des précurseurs, qui va être là et qui va filmer aussi... des images, hein, qui va ramener des images. Et le FLN, vers 60-61, crée vraiment un service image créé par une personne qui s'appelait Moussaoui, Sadek Moussaoui, et sous la direction de Yazid, et qui va récolter énormément de fonds, de photos, d'archives, et ça va être utilisé de manière très très forte. Évidemment, c'est pas un film qui a changé les choses, mais ça a un rôle très très important. On va le voir avec la révolution cubaine, d'autres choses. L'image est très très importante. Donc voilà une contextualisation un peu du rôle de l'image.
Tu nous parles de la révolution cubaine, mais aussi d'autres choses ailleurs en Amérique du Sud. Et l'un des mouvements, à mon avis, qui font le lien un peu entre la période algérienne de Vautier dont tu nous parles et le cinéma dominicain en Palestine, c'est ce qu'on appelle le tiers cinéma ou le troisième cinéma, le mouvement du troisième cinéma qui est né en Argentine. Qui a été théorisé par des cinéastes argentins, Retino et Solanas, qui ont écrit donc ce manifeste du troisième cinéma où ils proposent de fonder un nouveau cinéma révolutionnaire qui est censé renverser l'ordre cinématographique mondial, qui est censé former une culture décolonisée contre la culture des colons. Et donc c'est un manifeste qui a été traduit et qui a circulé dans le monde entier au cours des années 70. Peut-être, est-ce que tu peux commencer par nous en dire un peu plus sur les principes de ce troisième cinéma et sur l'influence qu'il a pu avoir dans le monde arabe.
C'est toujours difficile en fait à établir précisément. Il y a pas mal de gens qui ont fait des recherches sur ça. Donc le troisième cinéma, c'est l'idée toute simple de partir que en fait il y a un cinéma qui est le cinéma hollywoodien, un cinéma disons de divertissement. Il y a ensuite, selon eux, un deuxième cinéma qui est le cinéma d'auteur. Mais là, ils vont faire une critique un petit peu de la nouvelle vague. Ils disent que très souvent, la nouvelle vague, c'est des histoires un peu sentimentales qui restent un petit peu dans des espèces de contradictions, des personnages qui sont un petit peu entre deux feux. Et ils proposent un troisième cinéma, qui est un cinéma libre, qui n'est ni dicté par Hollywood, ni par, disons, le système du cinéma d'auteur. C'est un cinéma qui s'inspire de Fanon, de pas mal de choses de l'esprit du temps. Donc ils disent que c'est un cinéma de libération. C'est un cinéma qui libère le spectateur. Et le simple fait de montrer, des films comme ça, de manière clandestine, de manière aussi des fois informelle, dans des groupes militants, des groupes de jeunes, des groupes d'étudiants, des groupes des syndicats, de chances de choses, ça va permettre de voir éclore un autre type de cinéma. Un cinéma qui est en fait un cinéma qui est plus un cinéma de réflexion, d'action. Il y a la revue en France, il y avait Guy Hennebel qui avait été en Algérie quelques années, qui a ensuite été un auteur du livre La Palestine et le cinéma, qui s'est beaucoup intéressé à ça. Après, pour la question palestinienne, il faut savoir que Pour ce que j'en sais, en fait, jusqu'en 67, à l'époque où il y a quand même la figure de Nasser, il y a d'autres figures qui sont là. 67, ça libère vraiment le cinéma solidarité avec la Palestine. Et à l'époque, la question palestinienne, de nos jours, elle est vue, bien sûr, comme une question, comme l'injustice, comme la question de la revendication nationale. Mais à l'époque, il y a aussi une portée un peu, disons, comment dire...
Dans le cinéma, on le voit beaucoup, une portée... Je vais t'emprunter ton micro.
Il y a une portée quasi révolutionnaire avec un changement social profond. C'est lié. Et en France, par exemple, pour les cinéastes, beaucoup de gens viennent du mouvement de 68, des luttes anti-impérialistes, hein, donc, qui passent par l'Algérie, par Cuba. Donc c'est très important. Et il y a des figures, par exemple, comme Enis Rour, qui est, elle, d'origine libanaise, mais qui a fait un film sur la question palestinienne qui s'appelle Leila et les loups, pour qui elle va vraiment. Elle dit, on me surnomme Dolores Ibaruri, c'est une figure de la guerre d'Espagne. Et elle va être vraiment très intéressée par ce manifeste Troisième Cinéma, où elle voit, on est un peu dans l'époque de Che Guevara, il y a la théorie du Foucault, s'il avait dit, il faut créer deux, trois, de nombreux Vietnam. Donc beaucoup de gens font, se disent qu'il y a des points, les Chinois à l'époque parlent de zone des tempêtes, les Cubains aussi, on dit, il y a des points de la planète qui peuvent faire basculer, il y a une espèce de souffle. Il faut se rappeler, à l'époque, maintenant, des fois, on prend ça avec un regard... différent, plus désillusionné, mais on est vraiment dans une période porteuse d'utopie. Et ça qui concerne aussi le cinéma, qui concerne la musique, qui concerne énormément de choses. Donc les gens pensent vraiment, se disent, voilà, il y a quelque chose qui se crée. Et j'ai beaucoup parlé avec Denis Rour avec ça, elle m'a dit, pour nous, après 67, on se dit vraiment, voilà, c'est quelque chose qui... Il y a un basculement vers la gauche, il y a un basculement aussi vers les idées de changement radical. Et Monica parlait aussi de l'impact qu'il y avait eu par rapport au gouvernement qui était plus conservateur. Et il y a un changement. Après, il faut pas aider. Il y a beaucoup de cinéastes qui vont pas, forcément s'intéresser à cette cause, mais c'est une cause qui va de plus en plus rassembler. Et il y a vraiment un souffle, un élan, une idée que on est raccord avec un cinéma jeune, un cinéma dynamique, même jeune dans l'esprit, et qui veut vraiment bouleverser les structures. On est dans un contexte de contestation. Et pour tous ces cinéastes-là, la question palestinienne va attirer des personnes qui sont un peu à la pointe, comme Issy Kodar, par exemple, et d'autres personnes, quoi, d'autres cinéastes militants. Et l'image de la tricontinentale, elle est très importante, je dirais, entre la période 75 jusqu'à 82. Il y a le film de Beloufa, par exemple, Nahla, qui montre un peu le moment où cette utopie de changement radical, bah, il commence à se teinter un peu de pessimisme, à ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est important, voilà, de rappeler ça. Et il y a eu très vite dans la revue Souffle au Maroc, hein, une revue qui va associer l'avant-garde politique, l'avant-garde esthétique. Ça va être important. Par exemple, Solanas, il sera invité à la Cinémathèque d'Alger. Donc il y a vraiment un changement qui se fait. Il y a des traductions aussi qui se font et des raccords, quoi. En fait, c'est des bricolages, c'est-à-dire c'est des dialogues entre plusieurs cinéastes. Et il y a un mouvement international dont des fois, même sans avoir, entre guillemets, il n'y a pas ces belles étiquettes, Troisième Cinéma, mais où ce n'est pas, une espèce de chose, mais ça va être très important, en fait. Voilà pour un peu.
Je sais pas, est-ce qu'on a encore Monica avec nous ? Bon. D'accord. Alors j'avais une dernière question pour terminer pour Monica, mais du coup si elle nous entend pas, on peut peut-être passer à la chose. Moi je voulais parler justement comme on est dans le cadre d'un festival. Je voulais souligner l'importance qui n'est pas forcément mise en évidence par les ouvrages historiques des festivals dans le développement de ces solidarités internationales. Je voulais inviter Monica à nous parler du festival de Leipzig, qui est en fait le festival où elle a été invitée pour la première fois par un cinéaste palestinien à venir tourner en Palestine. Donc en fait, le festival de Leipzig, c'est un festival qui avait été créé sous la République démocratique allemande. Peut-être que Olivier peut nous en parler. Ah, Monica, est-ce que tu nous entends ?
Oui.
J'ai pas entendu ce que tu as dit.
Alors je reviens à ma question. Donc je voulais te demander ton expérience d'un festival qui a été important dans les solidarités cinématographiques, c'est le festival de Leipzig. Est-ce que tu peux
nous raconter ? Ah oui, Leipzig, bien sûr. Leipzig, c'était le mecca des documentaristes alors, hein, parce que à Leipzig, tu avais pas seulement, c'était un peu ça, ce qu'aujourd'hui c'est Amsterdam-ITVA, Enfin, c'était les plus grands et les plus grands festivals des documentaires. Il y avait plus ou moins 800 réalisateurs du sud, du l'est, de l'est. Et si tu voulais savoir ce qui se passe dans l'est, enfin, l'Indique, c'était le lieu où tu avais la possibilité de voir des films, pas seulement de Amérique latine, Afrique, enfin Asie, mais aussi de toutes les républiques asiatiques de l'Union soviétique, enfin de Géorgie à Turkménistan, et surtout c'était un lieu où il y avait, enfin c'était organisé dans une manière que après chaque film il y avait le groupe des réalisateurs, enfin qui était là pour le film, un encontre avec les réalisateurs des autres films de la journée. Et puis la nuit, c'était aller toujours jusqu'à très tard, enfin des tables rondes continues. Et il y avait, c'était aussi pas seulement un lieu de s'encontrer, mais c'était comme une école aussi, une école de cinéma et une source d'informations et de formations extraordinaires. Malheureusement, avec l'unification, c'était un des choses qu'on voulait étouffer, mais on a créé avec quelques monstres sacres comme García Márquez, Fernando Birri et des intellectuels de la RDA aussi, et pas seulement français, Joris Evans, clairement, et un des Santiago Alvarez, enfin tous les grands du documentarisme mondial, Flaherty, ils étaient là, et on a Patricio Guzmán et pas seulement pour faire voir leurs films, mais aussi pour organiser souvent des actions de solidarité concrète, comme par exemple pour les Vietnamiens, de faire des raccolts pour acheter des caméras ou des matériaux, enfin du film raw material. Et donc c'était vraiment un lieu très 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 utile et très unifiant entre les réalisateurs, enfin solidaires dans le monde alors. Et donc d'aller à Leipzig et avoir un film dans le programme, c'était une base pour faire multiplier les contacts et les possibilités de distribution, peut-être pas dans le sens commercial, mais d'avoir des contacts pour faire circuler tes films, et c'est ce que tu voulais, genre, et des messages. Et la solidarité internationale qui alors enfin, était un des valeurs prioritaires de la, du mouvement, pas seulement de la paix, mais des mouvements de libération nationale pour l'autodétermination et donc anti-impérialiste et anticoloniale, une valeur qui de plus en plus, enfin, c'est perdu aujourd'hui. La solidarité internationale, non, c'est pas, dites donc, un thème prioritaire dans le débat. Oui, ça existe, bien sûr, mais c'est pas un facteur principal. Dans la discussion politique.
D'accord. Merci Monica. C'était une dernière question pour faire un clin d'œil aussi au travail des gens qui, comme ici, organisent des festivals. C'est un travail qui est essentiel dans la circulation des idées et des images. Peut-être que je peux maintenant laisser la parole à Olivier pour conclure ce débat et nous présenter les films qu'on va voir maintenant.
Non, mais sinon...
Là, je vois que quelque chose bouge, mais j'entends rien du tout. Hein.
On a encore 10 minutes. Si vous
on a encore 10 minutes.
Et après, il y a des gens qui attendent.
Bah, oui,
sur cette question des festivals.
Oui, non, sur la question des festivals, c'est la question de la circulation. Bon, c'est vrai que par rapport à ce que dit Monica, je trouve, je le partage. Pour une large part, ce constat, mais en même temps, il y a quand même un travail qui se fait de, je crois que vous l'avez dû le montrer, ce que fait Mariana Diacobi, beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a une redécouverte. Il y a eu, le dialogue qui se fait aussi là avec Monica et d'autres initiatives. Je pense qu'il y a un travail de redécouverte, de transmission. C'est un mot qui est important. Moi, je suis aussi par rapport à toi, il y a toujours des âges, des générations différentes, mais il y a une redécouverte, il y a un intérêt nouveau pour ces questions-là en les réactualisant et en les posant différemment. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et finalement, en fait, beaucoup de ces images, et c'est le cas aussi des images de Monica, sont dans un contexte très combatif, très militant. Et en même temps, c'est des images aussi qui sont des documents. En fait, très souvent, en créant ça, ils créent des images qui sont aussi... des sources importantes d'un point de vue historique, c'est vraiment des témoignages qui sont très importants aussi. Et je pense que c'est important de les prendre en compte. Et voilà. Après, il y a énormément de débats, de choses, mais les festivals sont quelque chose de très important, je pense. Parce que maintenant, le paradoxe, c'est qu'on a accès à beaucoup de choses par Internet, par ce genre de choses, mais en fait, on a accès, on ne sait pas où aller. Beaucoup de gens me disent... on ne sait pas, les noms, on ne les connaît pas et on voit. Et donc, c'est important de faire des transmissions, de faire des échanges. Et ce qui est intéressant et ce qui donne aussi un certain espoir, c'est de voir comment des contacts s'établissent, comment est-ce qu'entre pays aussi, entre personnes, il y a des échanges qui se font. Et ça, très, très important. Et je ne sais pas si Monica a quelque chose... par rapport à son expérience, comment elle voit l'idée de la transmission... voilà, toute cette riche expérience qui nous permet d'être redécouverte à travers ces films. Les festivals ont un rôle essentiel, bien sûr. Les festivals et aussi les échanges, les rencontres.
Samedi 2 avril à 20h30 au MUCEM sera présenté le film L'étranger d'Amir Fakher Eldin en présence du réalisateur. Vous êtes les bienvenus. Merci et à mercredi prochain. Shall I be?